Claudel Bonneau, bonjour.
Bonjour.
Tu présentais au Merlan un long métrage intitulé La Paura, tourné avec un téléphone portable. On t'y voit montrer le consumérisme, la bêtise et puis la haine ordinaire aussi. Qu'est-ce qui te fait le plus peur, la bêtise ou la haine ?
Je crois qu'une et l'autre, c'est un peu la même chose. À la fin, la haine, le racisme, c'est un peu, ils dépendent un peu d'un connerie, dans la bêtise. Parce que la femme, c'est un peu la condition qu'on pense d'être éternelle, qu'on se va protéger dans des murs. Et alors, c'est ça la question qu'après il devient. C'est vraiment la peur de l'autre, c'est vraiment la peur de mourir, c'est vraiment la peur de beaucoup de choses qui t'obligent. Tu commences à te créer un certain lieu de protection. Et là, alors là, c'est de la connerie, là, c'est un peu d'idiotie, c'est une certaine idiotie. C'est un fait en culture. Cioè, il y a une question, par exemple, dans mon pays, il y a une question plutôt culturelle. Il est devenu le réel problème de notre pays. Il y a comme un peu un pays qui s'est oublié sa condition vieux d'être quelqu'un qui l'est émigré, quelqu'un qui l'est exilé, quelqu'un qui l'était conquisté par des autres, quelqu'un qui a vécu la dictature, quelqu'un qui l'a vécu. Chez notre pays, c'est un peu oublié tout. Et il s'oublie aussi l'histoire de la culture énorme qu'il y a, l'art, la poésie, le cinéma. Et alors quand tu t'oublies ça, tu entres dans une idiotie qui transforme les choses dans le racisme, dans la peur de l'autre, la protéger son petite couleur de la pierre, son culture italienne, c'est ça. Et la télé, c'est responsable d'avoir remis des éléments complètement, la vraie immoralité, c'est pas l'immoralité qu'il dit, parfois qui se préoccupe beaucoup l'Église, parce qu'elle dit non, la moralité de la famille est contre l'homosexualité, est contre tout ça. Non, c'est pas ça. L'immoralité, c'est l'immoralité de la télé.
Farmaci e interventi chirurgici possono essere una soluzione nel trattamento dell'obesità infantile?
I farmaci non possono essere utilizzati nel bambino fino ai 16 anni per ora, pertanto non sono la strada perseguibile al momento. La chirurgia va limitata a casi estremamente selezionati e non è la risposta all'obesità del bambino.
La cura è quella di una corretta alimentazione e
quanto tanto sport. Ma devo anche dire che non è un problema mondiale. È un problema mondiale.
Non c'è il minuto di
chiusura.
Professore, esiste una vera e propria pandemia dell'obesità infantile, ma quali sono i motivi?
Che sono esempi per questo problema.
Sempre più del cibo trash, questo cibo fast food, sempre peggio.
La tele, la mercifie tu. Le sentiment, il a mercifié le sexe, il a mercifié la femme, il a mercifié. Il a fait de tout un produit à vendre. Et alors, ça c'est vraiment le vrai problème de l'Italie. Pasolini l'avait dit une fois, il disait la vraie dictature va devenir la télévision. Mais c'était absolument vrai. Notre dictature, c'est la dictature de la télévision. Oui.
Est-ce que tu crois que la révolte, c'est l'antidote de la peur ? La révolte et peut-être l'art aussi, et peut-être la révolte dans l'art.
Bah, la révolte, c'est tout le temps l'art. Moi, c'est un peu difficile de penser à l'art sans révolte. Parce que l'art, c'est déjà faire voir. Révolte, quoi signifie ? Révolte signifie faire voir notre point de vue sur une situation. De changer le point de vue. Et quand tu changes le point de vue, c'est déjà c'est une révolte. Ça signifie pas la révolte, et c'est pas seulement l'image que nous avons de la révolte violente. Non, la révolte, c'est un acte d'amour, au fond. Aussi, Che Guevara, il avait écrit, moi j'ai trouvé à Santa Clara un petit billet qui lui disait une grande révolte, il peut naître dans un sentiment d'amour, il peut qu'naître dans un sentiment d'amour. C'est fort ça, parce que tu dis c'est un sentiment d'amour qui te fait avoir le désir de changer des choses. Sinon, pourquoi ? Moi aussi, le terrorisme, il est né au début d'un sentiment. C'est vrai, il a un peu, s'est un peu trompé sur les façons, parce que tu utilises les armes pour un sentiment d'amour, c'est un peu une contradiction. Mais au début, c'est vrai que c'est parce que tu veux changer quelque chose pour les autres. Parce que si tu fais une révolte, la révolte, il y a déjà une parole qui dit, tu fais quelque chose pour changer le monde autour de toi. Et la peur, oui, je crois que la peur, quand tu as peur, c'est le contraire de la révolte. Quand tu as peur, tu changes rien, tu restes dans ton niveau, tu restes dans ton sécurité, parce que tu as peur de te mettre en crise, tu as peur de voir des choses que tu ne veux pas voir, tu as peur de connaître quelque chose de toi-même que tu ne veux pas connaître.
Ma cosa c'è da fotografare? Cosa c'è da fotografare? Sta piangendo.
L'importante è che qualcuno anche
faccia vedere. Non è bella come cosa.
No, non è la pornografia, non preoccuparti. Non è Grande Fratello, è importante.
No, non mi sembra bello.
È importante che qualcuno testimoni questo paese di merda che si chiama l'Italia. Quindi sai per riconoscere.
Sì, sai per riconoscere,
ma non stai. Non preoccuparti, non essere fatizzare questo che non è documentare una diva della televisione, ma documentare un paese di merda, ma lo capite?
No, stia zitta, staffiate di
sì. Faccia la gentilezza, scusi. Non abbiamo bisogno di polemiche.
Invece io non voglio di farne tanta.
Sì,
perché non c'è il sindaco di Milano? Perché non ci sono i politici? Perché non ci sono quelle facce da scemi che ci vediamo sempre in giro? E voglio documentarlo e lo farò diventare un film questo. È un paese di merda, un paese fascista, che si meriterebbe assolutamente. È questo che voglio documentare. Stia tranquilla, che non è Grande Fratello. Perché non c'è il sindaco? Perché non c'è la corona? Perché non c'è nessuno in un paese razzista di merda? Dove sono i politici, dove sono i sindacati, dove sono i comunisti, dove sono i preti, i cardinali, un paese di merda.
Tu as commencé à en parler à propos de ton pays, l'Italie, la manipulation politique par la peur, par l'intimidation, transmise par les médias aussi éventuellement. On a longtemps cru que ça n'existait que dans les dictatures. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se pratique tous les jours dans nos belles démocraties. Au fond, les démocraties, elles n'ont jamais été aussi près de la dictature qu'aujourd'hui.
Oui, c'est plutôt parce que maintenant, il y a de nouvelles formes de dictature. Ce sont des dictatures plus fines, plus subtiles, plus intelligentes. Ce sont des dictatures qui sont plus difficiles à combattre. Parce que quand tu penses à la dictature en Sud-Amérique, au Chili, en Argentine, tu avais là le dictateur Pinochet, tu avais des choses, des personnes qui étaient clairement prises, qui étaient non torturées, que tout le monde y savait. Maintenant aussi, s'il existe encore les gens dans la prison qui sont pris, sont torturés, tout ça. Mais il y a une dictature plus fine, il y a une dictature qui est une dictature de la pensée. Cioè, c'est quelque chose que ils te mettent, par exemple, dans la tête des modèles. Qu'à la fin, tu changes ta vision sur les choses. Alors, si on pense par exemple, qu'est-ce qui est passé dans les classes des ouvriers, non, je peux imaginer. Maintenant, quand je fais un spectacle, par exemple, le mensonge, sur, à partir des ouvriers qui sont morts dans l'usine, beaucoup de gens, ils vont mourir chaque jour pour le travail, non? Mais par exemple, la classe sociale, ils l'ont perdu en lutte parce qu'ils sont entrés dans le désir de la classe plus riche. Tu as eu, par exemple, l'autre fois, l'Italie avait les jours que tous les vêtements des grands, comment je peux dire, stylistes, ils étaient moins chers. Donc, il avait des jours que tu pouvais payer moins. Il y avait plein de monde, mais pas seulement les riches, il y avait tout, il y avait les ouvriers, tout le monde achetait. On a profité des jours que tu peux acheter Saint Laurent, Louis Vuitton et Gucci à la moitié prix. Là, ça signifie que tout le monde il a pris ce modèle-là. Que c'est un modèle plutôt dangereux, parce que ce n'est pas que quelqu'un il se veut permettre d'avoir un objet, je peux dire, un bel objet pour se donner, je ne sais pas, je veux avoir un piano pour faire de la musique, je veux avoir un bel instrument pour écouter la musique. Je ne sais pas, je vais avoir une chose aussi, un sofa. Non, je vais avoir les choses, les griffes. Ça, c'est plutôt délicat, parce que si tu penses à la griffe pour avoir une identité, il signifie que tu as perdu ton identité. Alors, par exemple, quand moi j'étais là, à faire ce spectacle avec les ouvriers qui étaient à l'usine, je suis resté surprise que tout le monde, quand ils parlaient, tout le monde il avait les griffes dans le chapeau, les ouvriers. En fait, je me suis fâché aussi avec un ouvrier, j'ai dit, mais vous avez vu trop de télé. Vous êtes d'un côté la même victime que les autres, parce que vous travaillez aussi plus pour pouvoir pailler les griffes. Et ça, c'est réellement une dictature très terrible. Encore plus terrible, c'est une dictature intelligente, parce que tu vas changer le désir, et comme ça, tu peux après obliger aussi un peu qu'est-ce qui passe en fond dans l'Afrique. Moi, je crois que d'un côté, tout le monde il arrive parce qu'il a besoin de travailler. Il y a même la télé qui arrive à tout le monde, non? Ils te font voir, par exemple, pour parler de l'Italie, une Italie magnifique et tout ça. La jeune, d'accord, il y a des gens qui l'échappent dans des dictatures terribles, mais il y a beaucoup de gens qui viennent ici parce qu'ils pensent qu'ici, c'est l'Eden. Et après, ils se retrouvent comme des esclaves, à travailler comme des esclaves dans des situations hallucinantes. Mais eux aussi, ils ont pris le modèle européen. Pour moi, autrefois, j'ai dit, je pense que tu vives beaucoup mieux dans ton pays aussi, si tu manges rien, si tu vives, que vivre comme un esclave à l'Italie. Mais là, je préfère venir comme un esclave en Italie, parce que là, tu vis, autrefois, tu vois cette image, non, maintenant, qu'est-ce qui est passé en Italie, qu'est-ce qui passe. Mais tu préfères vivre ici, parce que tu as cette image-là. Et là, c'est une dictature de le désir. T'as changé le désir. Non? T'as changé. Et ça, c'est une dictature beaucoup plus terrible, d'une dictature plus fine.
On a pu voir ici au Merlan plusieurs de tes pièces, notamment une qui est intitulée « Récit de juin », dans laquelle tu évoques les liens étroits entre ton théâtre et ta vie. Une vie qui a connu des hauts et des bas, une période notamment de dérive et d'addiction aux drogues, à l'héroïne, aux drogues dures. Est-ce que c'était un moment où tu n'avais peur de rien ?
Non, moi quand je dis que j'étais plutôt dans la jeunesse, non, mais quand je dis ça... C'était pas que moi j'avais pas peur, mais c'était aussi prendre le désir de faire toutes les choses contraires à la normalité des choses. Bon, peut-être parce que moi j'avais une famille plutôt catholique, une famille qui n'était pas riche, mais assurément c'est une famille plutôt pauvre. Mais il appartient à cette façon d'une famille italienne qui veut que les filles se vont marier et tout ça. Et ça, moi, il m'a fait venir assurément l'angoisse. Je voulais pas faire ça. Alors, je crois qu'au fond, le désir d'échapper à toutes ces règles, c'était, au début, peut-être une chose plus personnelle, mais c'était mon désir de vivre, de trouver un lieu. Alors que l'expérience de la drogue comme ça, pour moi, c'était une expérience de révolte. Pour retrouver une liberté. Pour pas entrer dans le système, même d'un certain côté. Je crois qu'au fond, c'était ça, le désir. Et aussi, il peut jouer avec la vie, jouer avec les choses de risque. Après, les choses qui me sont passées dans la vie, comme tu la maladie, la chose que j'ai pas traversée, tu la question du sida, tout ça. Et bon, il m'a fait un peu retrouver un autre sens dans la révolte. Et je suis plutôt sûr maintenant que la révolte, pour moi, elle est plutôt restée dans la lucidité. Parce que nous avons besoin de rester lucides. Aussi ça, il est devenu une autre dictature. Parce qu'à la fin, il est mieux que les gens, ils sont un peu perdus. Il est beaucoup plus dangereux, les personnes lucides. Et alors, la lucidité, maintenant, il devient un nouveau acte de révolte, je crois. La même qu'il avait avant, la drogue, comme l'héroïne aussi, tout ça. Maintenant, je crois qu'il y a une grande révolte dans le désir de rester lucide, de se demander à soi-même de ne pas se faire prendre dans cette illusion qui sont beaucoup, beaucoup. C'est difficile de trouver en vérité maintenant. C'est difficile. C'est pour ça que moi, je crois qu'après beaucoup d'années, je me retrouve un désir fort de lucidité. Pour que c'est une acte de révolte. Le même que quand j'étais jeune, c'était la drogue.
Dans une autre pièce que tu avais présentée il y a quelque temps à Marseille lors de ton premier passage, Questo Buio Feroce, cette obscurité féroce. Et dans cette pièce, tu y parles de la maladie et de la mort. L'émotion que la pièce provoque est évidemment très forte pour les spectateurs, mais peut-être le plus fort, ça vient d'une espèce de sérénité ou de distance que tu as par rapport à cette maladie et par rapport à la mort. D'où te vient cette force qui résiste à la peur de la mort?
C'est vrai que c'est une force que moi j'ouvre dans les rituels du théâtre. Okay, c'est important. Le théâtre, c'est vraiment un lieu où tu mets le maximum de lucidité, de liberté, de joie. Tu es vraiment un peu comme les guerriers dans un spectacle, aussi dans l'acte artistique. Mais c'est vrai que je crois que le fait d'avoir passé par exemple moi aussi à travers un 20 ans de lutte contre une maladie qui maintenant il était plutôt tranquille parce que maintenant bon, il y a aussi des médicaments, des choses qui marchent normalement bien, alors je sais, c'était pas plus un problème direct pour moi. Mais c'est vrai que moi par exemple le désir, la nécessité de vivre, il m'a fait, je crois aussi, m'a donné des chances. Parce que quand j'ai le fait de regarder la mort beaucoup des années, je crois qu'il t'a un peu ouvert les yeux, il t'a fait perdre un peu. Je dis un peu parce que c'est pas aussi, heureusement, c'est pas que tu deviens jamais sage dans la vie. La sagesse, c'est un parcours que je crois que tu le prends peut-être le moment que tu vas mourir, c'est déjà merveilleux. Mais c'est un chemin, la sagesse. Tu fais des pas, après tu retournes derrière, après tu cours encore un peu avant, après tu retournes, après tu fais... Mais c'est vrai que tous ces bagages, tu l'amènes avec toi. Ça, c'est inévitable. Tu l'amènes. Et surtout sur l'acte artistique, que pour moi, c'est l'acte plus pur. Parce que c'est un acte que tu travailles sur... Aussi, si tu travailles sur l'émotion, tout ça, ben, tu travailles sur une chose beaucoup plus profonde que l'émotion. C'est quelque chose de... C'est un regard aussi sur l'émotion. Je crois qu'aussi le bouddhisme, à moi, il m'a aidé à trouver un parcours plutôt profond. Moi, je pratique depuis plus de 20 ans le bouddhisme. Alors, si je dis que je suis un peu bouddhiste, un peu anarchiste, un peu communiste, un peu les trois, je ne sais pas bien où. Mais c'est vrai que le bouddhisme, c'était un parcours différent des autres religions monothéistes. Les bouddhistes, il y a quelque chose qui te fait passer à travers la connaissance de toi-même, avant tout, fondamental. Et après, tu vas plus au fond, sans jamais entrer dans n'existe pas Dieu, il n'existe pas la moralité, il n'existe pas des règles morales. Il n'existe pas comme des autres, comme les dangereux religions monothéistes, qui, on sait que l'islam, les chrétiens, les juifs, il a amené beaucoup, beaucoup d'histoires aussi plutôt difficiles dans l'histoire, dans notre histoire. Il y a un, ça peut dire un regard pas bon, une distorsion sur la religion, sur les trois religions, qui l'ont amené effectivement à des choses plutôt complexes dans l'histoire du monde. Je crois que dans le bouddhisme, pour le fait qu'il n'existe pas Dieu, il n'existe pas une entité qui peut devenir une entité de pouvoir, mais il existe plutôt quelque chose que tu cherches de... Tu te mets dans des zones de l'univers, tu te mets dans des zones plus profondes de l'être humain dans l'univers, dans l'inconnu, sans aucun nom. Et ça peut-être te donne un peu un regard de plus... Un voyage pour aller au fond. Et là, je crois qu'il y a la joie. En fait, dans Buio Feroce, il y a beaucoup de spiritualité, par exemple, dans les paroles de Harold Broad, qui sans être religieuse. Ça, c'est intéressant, que tu arrives à la paix comme un acte spirituel, mais pas religieux.
Con grande gioia vi do il mandato di animatori e educatori degli oratori estivi. Il simbolo è quello dell'impronta colorata. In realtà essa rimanda ad altri passi, a quelli del Signore Gesù. Siano questi passi a velocizzare i vostri quando diventeranno troppo lenti. La, 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 la,
ce qui t'aide dans le bouddhisme, c'est pas uniquement le rituel, si je comprends bien. C'est aussi ce qui t'apporte de capacité de plonger en toi-même, cette lucidité dont tu parlais tout à l'heure.
Pour moi, ça te fait sortir un certain vérité de toi-même. Tu cherches une zone plutôt neutrale, que tu cherches un point de vue qui il voit toi-même dans ton histoire, dans ton arrogance, dans ton violence, dans ton peur. Tu le regardes. C'est pas facile. Hein? C'est pas seulement suffisant que tu dis, je fais le bouddhisme, il arrive. Non, le bouddhisme, c'est moyen pour faire. Tu as un moyen, mais puis, il dépend comment tu l'utilises. Mais tu as un moyen pour faire des choses, pour faire un parcours. Ça, c'est important d'avoir un moyen. Non? Tu peux avoir un moyen. Mais après, c'est toi que tu fais tout. C'est toi qui dépend de tout. C'est toi la responsabilité de toutes les choses. C'est très important aussi la responsabilité que tu prends. Parce que c'est vrai aussi que, par exemple, elle est plutôt complexe, les choses. Je sais que, par exemple, aussi, ici, il y a eu des problèmes avec le bouddhisme. Je pratique le bouddhisme dans la Soka Gakkai, que c'est une chose japonaise. Ils ont eu beaucoup de problèmes parce que il a été défini comme un secte. Et comme un secte, le bouddhisme, un secte. Arrête, je ne peux pas dire un secte. Mais c'est vrai aussi que quand tu vas au fond des questions, tu sais que le bouddhisme, par exemple le bouddhisme japonais, ça a beaucoup contesté l'énergie atomique. Et bon, ici, l'énergie atomique, il est plutôt à la fin. À la fin, c'est ça la question, pour retourner à nous. C'est ça qui est... Ah là là. Il y a l'Italie, bon, nous avons gagné les premiers prix, mais il y a une subtile dictature, le racisme, aussi en France, aussi en Allemagne, aussi en Espagne, aussi. Et ça, c'est les problèmes de notre époque.
À volte, vorrei la sordità di Bobo. Essere analfabeta. Come Bobo. Bobo, che ha passato 50 anni in un manicomio, vero. Bobo, che ora è pulito da tutto. Libero. Come il lupo, che anche se la domestichi, guarda sempre. Verso la foresta.
On a parlé tout à l'heure du film La Paura. Dans un autre film intitulé Grido, tu évoques ta relation avec Bobo, personne que tu as tiré d'un asile pour l'emmener en tournée avec toi, pratiquer le théâtre. Comment est-ce que tu peux expliquer que quelqu'un comme Bobo puisse faire peur, assez peur pour qu'on veuille l'enfermer?
Ben, tu fais peur de toutes les choses qui sont différentes. Tu as peur de la diversité. Tu as peur parce que moi je crois que l'être humain différent, il te met une question sur toi. Il te demande, moi, qu'est-ce que je suis? Moi que je suis, je parle, moi je écoute, moi je... c'est qui moi? Alors des personnes qui amènent des autres choses, ils te mettent devant les yeux les questions plus profondes. En fait, par exemple, quand moi je vais dans des pays comme, je sais pas, le Brésil, où je vais, je me souviens quand j'étais dans des lieux comme l'Iran, l'Irak, bon, des pays plutôt en guerre, je peux dire. Et bon, le Brésil, maintenant, le Sud-Amérique est beaucoup mieux que nous. Mais quand je me souviens, quand j'étais dans des zones, certains moments, en Sud-Amérique, il y avait Sendero Luminoso, qu'il y avait des problèmes de terrorisme, Sud-Amérique plutôt dur. Les choses que quand j'arrivais, par exemple, avec Bobo, avec Gianluca, il y avait beaucoup plus de tranquillité avec eux. Aucune personne ne les voyait comme quelque chose de différent. Parce que c'est vrai qu'ils sont des lieux qui, la différence, ils appartiennent à la communauté. Cioè, il y a comme des communautés qui vivent ensemble, il y a des... Non, cioè, ici, que nous sommes tous un peu même cadrés dans une certaine typologie, nous sommes un peu tous identiques, comme nous parlons, comment se mettre le vêtement, comment on pense. Cioè, effectivement, il y a plutôt une grande uniformation des choses. Et ça, il n'est rassure. Aussi, si on voit les politiques, non, la droite, la gauche, mais à la fin, c'est un peu la même. cioè il n'y a pas beaucoup de différence. Il ne fait quoi qu'il y a la différence, mais au fond, il y a une homologation totale. Et ça, c'est alors, il te rassure. Alors, quand tu vois quelqu'un qui est réellement différent, il te fait peur.
Et au fond, s'il nous fait peur, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous nous faisons peur. C'est-à-dire que la peur de l'autre, elle naît d'abord de la peur de soi, non, tu crois pas?
La peur de soi, c'est... Oui. Tu as peur de toi-même quand tu comprends pas des choses. Tu as peur de faire des voyages à l'intérieur. C'est un mécanisme de la tête. Non? Nous sommes plus capables à regarder la maladie qui est dehors, mais nous ne sommes pas trop capables de regarder la maladie dedans. Nous, nous avons peur de regarder ça. Et ça c'est un problème. Ouais.
La maladie et la folie, et il y a un grand auteur dramatique qui est un peu le spécialiste de la folie au théâtre, c'est William Shakespeare. Et pour la première fois, tu montes avec Enrico Quinto une pièce de théâtre sur un texte de Shakespeare. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer l'écriture de Shakespeare?
Moi, j'avais jamais pensé à Shakespeare comme qu'il explore la folie. Je pensais tout le temps à Shakespeare comme qu'il explore la lucidité, plutôt. Mais c'est vrai que la lucidité et la folie sont des choses qui sont plutôt là. Il y a un livre qui va sortir maintenant avec Actes Sud sur mon. Moi, j'ai fait des photos pendant beaucoup d'années. Il y a beaucoup de photos de moi que je fais, des articles que je fais sur différents journaux à l'Italie, plutôt politiques, et des écritures que je fais pendant la création. Il y a trois niveaux. La pensée politique, les photos qui sont plutôt libres, et l'écriture pendant que je fais la création qui sont complètement fous. Et derrière, il a écrit « La lucidité folle de Pippo de Bono ». Ça s'appelle « Regarde ». C'est lui qui va sortir maintenant. Avec Actes Sud. Et là, par exemple, c'est intéressant, parce que la lucidité folle. C'est intéressant, la lucidité et la folie. Non? Il y a alors, tu me dis, par exemple, tu me parles de Shakespeare comme folie. Je ne dis pas que la folie. Tu dis, si, c'est vrai. Il explore la folie, mais il explore la lucidité. Parce que la femme, dans un récent, comment, qu'est-ce qui m'avait touché de ce texte? M'avait touché cette vision de l'être humain simple, mais très, très lucide. Le roi, l'être humain, que signifie qu'être roi, non? Qu'est-ce que le roi qui peut être pauvre, qui va mourir, la condition de l'être humain, qui peut être un roi, il peut être un esclave, mais au fond, c'est un être humain qui va mourir, qui va vieillir, qui va... Non? Et la condition, par exemple, de gagner l'impossible. Il y a des paroles dans Henri V qui sont, il te parle de courage, il te parle de force, il te parle de possibilités vraiment de gagner l'impossible, cioè d'aller dehors de la rationalité des choses. Il te parle de la possibilité que les douleurs se transforment en une occasion de joie. Cioè, il y a comme un regard lucide. J'ai trouvé dans ce texte des choses, surtout il appartenait à un moment que moi j'étais plutôt mal aussi pour la maladie, tout ça. Alors ces paroles, il m'a donné beaucoup de spiritualité. C'est pour ça que j'ai choisi de faire Henri V. C'est vrai qu'après moi j'ai pris Henri V, sûrement un peu les choses que je trouvais plus carnales, qui m'appartenaient plus. Je me suis éloigné de l'histoire dramatique. Mais tous les grands thèmes qui sont les thèmes de Shakespeare qui sont totalement actuels sont les thèmes qui encore nous pourrons mettre, nous pourrons parler d'Henri V, nous pourrons parler de Sarkozy, de Berlusconi, nous ne pourrons pas seulement penser que le mal il est dans les politiques, il peut être aussi dans un petit directeur d'une épicerie. C'est trop facile de penser que l'Italie, non, tout le monde, Berlusconi. C'est pas ça. La question, c'est que nous. C'est un acte, c'est un peu une exaspération de que c'est la maladie plus profonde, que c'est la maladie du pouvoir, que c'est une maladie pas facile à résoudre. Je me dois confronter. Tu dois avoir une grande sagesse, une grande. Il y avait des personnes, pas beaucoup, qui ont réussi
à mettre ensemble le pouvoir et là et l'autre. Mais peut-être nous pourrons parler de Mandela, nous pourrons parler de Gandhi, nous pourrons parler de quelqu'un. Heureusement, ils sont vécus, mais c'est rare, c'est rare. Alors c'est vrai que Shakespeare, il y a quelqu'un qui y va à aller chercher d'aller au profond de ça, et ça c'est extraordinaire.
Ai, serva Italia, di dolore austero, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia, ma portella. Quell'anima gentile fu così presta, sol per lo dolce suono della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. E ora in te non stanno senza guerra i vivi tuoi, e l'un l'altro si rode di quel comuro e una fossa serra. Cerca, misero, intorno delle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno s'alcuna parte in te di pace gode.
La peur est son contraire, c'est-à-dire le courage. La figure de Pier Paolo Pasolini, auquel tu rends hommage avec l'Arabia, est-ce que c'est une figure qui te donne, toi, du courage?
Pasolini, il est plutôt... Pasolini, il était quelqu'un qui est beaucoup lié à l'histoire italienne dans certaines périodes de l'Italie. Et Pasolini, c'est quelqu'un qui avait une grande cohérence entre sa vie, entre sa poésie, entre son cinéma. Cioè, l'art et la vie, c'était totalement en harmonie. Mais ça, c'est une chose tellement forte, surtout maintenant, qu'il est extraordinaire. Qu'on lui avait le courage de parler de sa sexualité, de son histoire, tout ça, tranquillement. Dans un moment qui faisait beaucoup, beaucoup mal. Moi aussi, maintenant, il pourrait être encore plus pire, hein, faire ça, parce que maintenant, la moralité est devenue encore plus dure que dans les années de Pasolini. Mais c'est vrai aussi que Pasolini reste plutôt un exemple pour un à part que son film sont magnifiques, surtout son, non, il y a certains livres qui sont extraordinaires, mais sa capacité réellement de se mettre au fond de l'être humain. Alors Pasolini ne regardait pas comme quelqu'un qui regarde d'en haut vers bas, et regarder avec les yeux plus bas. Tu partages une expérience au fond avec la personne que tu regardes. Et ça c'est une chose plutôt devenue plutôt rare. Moi je pense au cinéma de Pasolini. Pasolini regardait l'autre avec totalement sa vie. En fait, lui il est mort parce qu'il était tué pour son désir de partager tout. Ça c'était une cohérence totale. Un artiste totalement cohérent. Alors maintenant que nous avons un peu perdu cet artiste, bon, si, c'est vrai que Pasolini, il te donne du courage. Après, il y a des autres choses que peut-être, heureusement, tu es un peu différent. Parce que, bon, tu, par exemple, Pasolini, il était plein de trop communisme et trop catholicisme pour moi. Et quelquefois, c'était un peu trop. Moi, heureusement, je ne suis pas plein de communisme parce que je ne suis pas né dans cette histoire aussi. Peut-être après, j'écris plusieurs années sur un journal communiste, mais je ne suis pas né dans cette histoire. Alors, je me suis retrouvé comme ça, mais après, je suis autrefois échappé. Et après, heureusement, 20 ans de bouddhisme, je crois qu'il m'a un peu aidé à me libérer un peu de la culpabilité du christianisme. Un peu, je ne sais pas, 20 ans minimum. Pasolini, non, il avait totalement là. Il avait plein de croix de Christ. Ça, il était dedans, non? Alors ça, c'est aussi son limite.
Vieni, crudel, vieni, e vedi la pressura dei tuoi gentili, e cura lor magagne, e vedrai Santa Fior. Com'è oscura. Vieni a veder la tua Roma, che piange, vedo, e su. E di e notte chiama. Cesare mio, perché non m'accompagni? Vieni a vedere la gente quanto s'ama, e se nulla di noi pietà ti muove, a vergognarti vien della tua fama. E se licito me, o sommo Giove, che fosti in terra per noi crocifisso, sono i giusti occhi tuoi
rivolti altrove.
E poi il mio cane è uno. Adesso tieni qua i cani piccoli.
A part Pier Paolo Pasolini, chi te donne du courage aujourd'hui, qui tu aimes lire, ou voir, ou rencontrer, ou écouter, et qui te donne du courage?
Non, moi j'ai une relation plutôt vivante avec les poètes. Moi je ne suis pas quelqu'un qui dévore beaucoup de livres. Non. Mais quand tu trouves quelques livres qui t'ouvrent des zones, ces paroles-là, elles t'ont à donner du courage. Mais il peut être aussi en phrase, peut-être parfois. Moi je ne peux pas avoir trop de paroles dans la tête pour avoir du courage. Parfois tu trouves une phrase d'un poète et ça, tu te l'amènes avec toi. Tu sais, tu trouves un petit fragment d'une poésie, d'un texte, tu trouves des images d'un film, tu trouves, heureusement, tu trouves en peinture, en dessin, tu trouves en musique, tu trouves. Non, et alors il y a plein de. C'est pas passé. En même temps, je ne peux pas dire qui. Mais il y a beaucoup, parce que en même temps, tout le temps, tu découvres. Tu découvres dans des autres des maîtres qui te donnent du courage, qui te donnent de la. Ah, une chose qui te surprend, je peux dire plutôt ça. Plus que courage, le courage, tu le dois trouver dans toi-même. Non? Le courage, tu le trouves. Dans ces parts plus profondes de toi-même qui n'est pas de la tête. Mais il te donne, le poète, il te donne en satisfaction, en gratification poétique. Après, le courage, il appartient plutôt à quelque chose que. Les artistes, ils sont aussi des personnes qui ont eu beaucoup de souffrance. Ça, c'est normal. Parce que beaucoup de fois, l'acte artistique, il est aidé aussi si tu as dans ton incapacité, dans ton limite, dans ton malheur. Alors c'est vrai que beaucoup de fois, dans la maladie, il peut y avoir un acte créatif fort. Et alors, dans la frustration, il peut y avoir un acte créatif fort. Une fois, sur le Corriere della Sera, il est sorti un article qui disait « Bienvenue, pourquoi tout le monde maintenant il parle des mouvements pour les homosexuels, les mouvements pour libérer tout ça ?» C'est mieux quand il était avant que tous les grands poètes ils sont venus dans la République. Il parlait de Proust, il parlait de tout ça, d'Oscar Wilde, il parlait aussi des Juifs, il parlait de beaucoup de gens qu'il a trouvés dans cette souffrance en grande capacité artistique. Bon, ça c'est une chose que je sais pas. Peut-être c'est vrai. Alors tu vois que le courage, il t'arrive et parfois dans des gens plus simples que dans les poètes. Parce que les poètes, ils sont pleins de maladies. Nous sommes pleins de maladies. Je peux dire, je me considère moi aussi comme artiste. Nous sommes pleins de blessures. Plutôt, peut-être si tu as les blessures, tu décides aussi de devenir un artiste. Si tu as moins de blessures, si tu es bien tranquille, peut-être tu n'es pas un artiste. Mais alors le courage, parfois, il arrive dans quelque chose qui est entre un équilibre entre la vie, la blessure et la poésie. Tu dois trouver une harmonie. Parce que bon, tu peux me dire, je suis un artiste génial, mais je souffre toute la vie. Je ne sais pas, c'est ça. Ça, c'est un peu une condition qui s'amène avec nous un peu dans l'histoire culturelle plutôt forte, plutôt européenne, plutôt non. Nous sommes dans. Il est resté beaucoup dans les artistes cette image de la blessure, l'artiste. Non, l'artiste qui doit être un peu malade, il doit être un peu. Non, je ne nous ai jamais considéré la possibilité d'un artiste très très heureux, que toutes les choses les vendent bien. Ça.
Pour conclure cet entretien, Pippo Del Bono, sur deux mots. Le premier, le mot qui te fait le plus peur. Et le deuxième, le mot qui te fait le plus plaisir.
Alors, le mot qui me fait plus peur. Ça, c'est une question. Le mot qui me fait plus peur, c'est. Le mot qui me fait plus plaisir, c'est la parole vie. Le mot qui me fait plus peur, c'est la parole morte. Mais pas la morte que c'est pas la mort que tu vas mourir. C'est la mort de l'enthousiasme, la mort de la liberté, la mort de la joie, la mort de l'amour, la mort de la révolte. Tout ça, c'est cette parole morte-là, dans ce sens-là, qui me fait plus peur. Et vie, dans le sens que c'est pas la vie, hein, la vie, 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 je m'en parle, non? C'est pas que c'est la vie, si je vais à la discothèque, je mange, ça c'est pas la vie, ça devient morte. Hein? Quelquefois dans la vie, il y a beaucoup, beaucoup de mortes. Et dans la mort, tu peux avoir beaucoup de vie. Quand tu vas tuer, par exemple, les choses que tu t'attaches, les choses que tu as peur de laisser, non, les choses que tu as peur de laisser. Ça, c'est une vie qui devient morte. C'est tout le temps pour ces deux paroles qu'il danse, je pense, entre nous.
Pippo Del Bono, réalisateur et metteur en scène, était de passage à Marseille en janvier 2010 pour y présenter plusieurs spectacles et films à l'invitation conjointe du Merlan, du Gymnase et de la Criée. Dans cette programmation, on a notamment découvert le pocket film La Paura, dont vous avez entendu quelques extraits au cours de cet entretien, diffusé en avant-première d'une thématique antenne intitulée Chérie, fais-moi peur, à venir sur les 3-8 du 27 février au 7 mars, et dans laquelle il sera rediffusé.